et c'est en compagnie de Michel Collomb, qui enseigne la littérature comparée à l'université Paul Valéry à Montpellier, d'où il est en duplex, et qui est notamment l'auteur de Paul Morand, petit certificat de vie paru chez Hermann. Michel Collomb donc, c'est en sa compagnie que nous allons passer les 50 minutes qui viennent.
Vous savez, il y a 50 ans, il y avait des bouts du monde. Il y en avait même plusieurs. Maintenant, il n'y en a plus. Pourquoi ? Ben, j'ai voyagé pour fuir la famille, les dîners ennuyeux du dimanche, les vacances dans la maison de campagne de ma grand-mère, tout ce qu'on fuit à l'âge de 10 ans. Car la fuite est la seule arme efficace en amour et en affection. Vous vous rappelez, il y a ce personnage de Maurice Donnet qui dit « Si vous faites une valise, partez, partez. » Parce que si vous faites votre valise, vous serez perdu, vous réfléchissez et vous restez.
Silence. Les dernières vagues atlantiques se jettent sur une pointe de rocher brun pourpre et s'y déchirent. Un cri de mouette. De chaque côté du promontoire, la marée gonfle et remonte les estuaires. À droite, la nuit commence à cacher les collines. À gauche, descend un soleil jaune soufre. L'Amérique est grande, déjà. D'une grandeur anonyme, d'une immensité sidérale. Immobile, repliés sur eux-mêmes comme un germe, ces lieux qui seront New York attendent de naître. La lune se lève. Elle éclaire sans agrément des solitudes où il ne se passe rien depuis des millions d'années. Silence de commencement du monde. Mer vide, sans une voile. Les voiles s'en vont plus au nord vers l'Amérique française ou anglaise, plus au sud vers l'Amérique suédoise ou espagnole. Jamais elle ne s'abaisse ici.
Bonjour Michel Collomb. Michel Collomb, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. On va parler de Paul Morand avec vous, des voyages de Paul Morand, de New York, un peu, de Venise, ça c'est sûr, et de Bucarest peut-être, à la fin de cette émission. On verra si la conversation nous y conduit. On va surtout parler de l'art du voyage, de Paul Morand, du diplomate Morand, qui n'a cessé de voyager tout au long de son existence. Partons de New York, et en partant de New York, du commencement du monde, hein, Georges Kless, qui est à mes côtés dans le studio 131 de la Maison de Radio France, vient de lire les premières lignes magnifiques du début, de la description que Paul Morand propose de New York. La particularité peut-être, Michel Collomb, de la description que Morand propose de New York, c'est qu'il n'est pas, comme pour Venise, directement relié à cet endroit. Il donne plus le sentiment d'un carnet de voyage, du portrait d'une ville qu'il regarde de l'extérieur, et non pas, comme c'est le cas pour Venise, j'allais dire, de l'intérieur avec son propre sang. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait. Le passage que vous avez lu, c'est une véritable ouverture symphonique. On suit en quelque sorte le regard du voyageur qui arrive, de l'immigrant qui arrive, du nouveau venu qui découvre cette terre. Et c'est une terre où tout est possible, une terre encore vierge, pure, où toute une civilisation peut se construire. Et effectivement, ce texte, écrit par Paul Morand en 1929, est le texte de quelqu'un qui ne connaît pas encore vraiment très bien les États-Unis. Il est passé à deux reprises auparavant, une fois avec son épouse d'ailleurs, une fois très brièvement lors de son tour du monde en 1925. Et en 1929, il revient, passe deux mois à New York et écrit ce New York qui est à la fois un guide, une réflexion sur la civilisation moderne. Cocteau disait à Morand, tu vas à New York pour te faire lire les lignes de la main. C'est effectivement un essai de compréhension de la modernité qui se développe en avance aux États-Unis. C'est un texte sur la poésie du nouveau monde, de la modernité, de la grande ville surtout, parce que dans les voyages de Paul Morand, il y a quand même une fascination particulière pour la ville. Ça ne veut pas dire qu'il ait complètement ignoré ou méprisé les paysages naturels, mais c'est vrai que ces grandes œuvres, ces grands portraits de ville s'intéressent plus particulièrement à la réalité urbaine.
Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'effectivement, chez Morand, hein, les portraits de ville sont faits, rédigés à l'imitation des portraits humains. Il décrit les villes comme des humains. Et pourtant, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais qu'on commence par lui, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est une ville avant la ville. C'est une ville rendue, j'allais dire, à sa nature natale et à l'espace qui la précède complètement.
Oui, il y a quelque chose chez Morand, il y a une sorte de postulation constante tout au long de sa vie de retourner vers quelque chose de primitif, vers une sorte d'île primitive où on pourrait reconstruire la civilisation. Ça vient, il y a des lettres à Giraudoux lorsqu'il est en bateau en 1925, qui s'approche des côtes de l'Indochine, où il lui dit j'aimerais m'arrêter dans une île et puis rester là à ne rien faire. Il y a une sorte d'attrait pour le primitif. C'est très curieux de la part de quelqu'un qui est aussi mondain, enfin qui a une image de mondain, d'homme très civilisé, qui était Morand. Il y a toujours cet aspect-là chez lui. Un gros rousseauisme d'ailleurs qu'il n'a passé son temps à rogner, puisqu'il y a eu une période où il a dit beaucoup de mal de Jean-Jacques Rousseau.
Oui, c'est étrange. Mais il y a, comme chez les contempteurs de Rousseau, bien souvent un héritage implicite. Chez ceux qui le combattent ou chez ceux qui le contestent, en général, se retrouvent dans le naturalisme de Jean-Jacques Rousseau. C'était le cas de Paul Morand. On retrouve ça d'ailleurs même dans Hécate, par exemple, dans d'autres textes de Morand, où il y a constamment chez lui une sorte de retour à la nature, à la cruauté, à l'âpreté de la nature, qui va d'ailleurs peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, chez Morand, avec les égards qu'il témoigne à l'égoïsme des gens, cette façon qu'il a de reconnaître en tout être une forme de souveraineté, un égoïsme en somme dont il se repaît presque en écrivain.
Ah, ça c'est certain, il a toujours...
C'est comme si la nature chez Morand lui servait à retrouver l'égoïsme, et non pas la bonté d'ailleurs.
Tout à fait, l'égoïsme, l'instinct, le côté un peu prédateur de l'individu, ouais. Ça c'est certain. Et ce qu'il regrettera d'ailleurs dans l'évolution du voyage, c'est que on ne voyage plus qu'en groupe, on ne voyage plus qu'en voyage organisé. Il écrit quelque part, dans tous les domaines, l'individu est un vaincu en matière de voyage. Aujourd'hui, c'est un fou. Et effectivement, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver, à l'occasion du voyage, la capacité à survivre, à lutter, à se dépasser.
Mais également, comme dirait l'autre, à plonger au fond du gouffre, hein, ou ailleurs d'ailleurs, pour y trouver du nouveau. Il y a une injonction poétique dans l'art du voyage chez Morand. Morand est un styliste du voyage.
C'est quelqu'un, enfin si on prend les textes, c'est quelqu'un qui a certainement organisé ses récits de voyage de façon très concertée, de façon différente chaque fois. Mais alors, on parlait tout à l'heure de New York. Dans le cas de New York, on a effectivement la volonté d'explorer un objet nouveau, une civilisation incarnée dans cette métropole. Et là, on a un regard très, très objectif qui va procéder de façon très analytique en adoptant parfois même le style d'un guide de voyage.
Et ben on va y aller justement, oui. Hein, là-dedans. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende, on a entendu au début de cette émission, on n'en a pas parlé d'ailleurs, la voix de Paul Morand lui-même, parlant du voyage comme d'une fuite. Le thème d'ailleurs du voyage comme d'une fuite revient à plusieurs reprises cette semaine, puisque la question se pose de savoir si Nietzsche a fui lui-même, si Sandrars a fui lui-même, puisque contrairement à l'idée reçue qu'on pouvait s'en faire, Sandrars se défendait d'avoir fui quoi que ce soit en partant en voyage. Ici, on va entendre de nouveau Paul Morand qui parle justement de ce voyage qui s'est transformé en migration, ce qui pour lui d'ailleurs est normal, car le travail est à ses yeux une malédiction qu'il s'agit de conjurer en voyageant. Et puis on va revenir en votre compagnie, Michel Collomb, sur New York, sur ce portrait qu'il fait de New York et en particulier de ses gratte-ciels. Écoutez Morand.
En 1927, j'ai publié chez Hachette un livre qui s'appelait « Le voyage ». Et on m'a demandé de refaire une nouvelle édition en 1965, et je me suis aperçu que le voyage était exactement le contraire de ce qu'il était à ce moment-là. C'était un voyage individuel, aujourd'hui c'est une migration. Les gens étaient beaucoup moins heureux qu'ils ne le sont maintenant. Avec l'optique, on croit le contraire, mais c'est l'optique du passé. Et je trouve très naturel que les gens pensent toute l'année à faire leur voyage, car le travail, sauf si le travail est un travail qui vous plaît, ce qui est extrêmement rare et qui correspond à ce que vous désirez faire, comme un travail d'écrivain par exemple, le travail est une malédiction. J'ai voyagé très rapidement pour des tas de raisons, souvent dans ma vie. Je faisais des raids sur les villes ou sur les pays, je revenais, je touchais barre, je partais ailleurs. Et maintenant, je n'aime plus qu'une sorte de voyage, c'est de rester un ou deux ans dans chaque pays.
Ancré dans la chair vive du roc, descendant sous terre de 4 ou 5 étages, portant au plus profond d'eux-mêmes leurs organes essentiels, dynamo, chauffage central, rivetés au fer rouge, amarrés par des câbles souterrains, des poutrelles à grande hauteur d'âme, des pylônes d'acier, ils s'élèvent, tout vibrant du ballon formidable des étages supérieurs. La rage des tempêtes atlantiques entorent souvent le cadre d'acier, mais par la flexibilité de leur armature, par leur maigreur ascétique, ils résistent. Les murs ont disparu, ne jouant plus aucun rôle de soutien. Ces briques creuses, dont la construction est si rapide qu'on peut monter d'un étage par jour, ne sont qu'un abri contre le vent. Et ces granites, ces marbres qui garnissent la base des édifices, n'ont que quelques millimètres d'épaisseur et ne constituent plus qu'un ornement. Les plafonds en lattis sont simplement agrafés aux charpentes. Le toit est fait de feuilles d'acier. Tout bois est interdit, même en décoration. Tout l'effort, accru par l'altitude, est troué par ces cages ignifugées que traversent une vingtaine d'ascenseurs et tant de faisceaux de fils électriques qu'on dirait des chevelures. Lorsque j'écris ces lignes, ayant depuis longtemps quitté New York, j'ai encore dans les oreilles les bruits de la perceuse qui, dans le fer, perfore le trou du boulon manié par un ouvrier ganté à cheval sur l'échafaud aérien, sans autre outil qu'un fil électrique.
Michel Collomb est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, à mi-chemin, justement, d'une semaine que les chemins consacrent au voyage. C'est de Paul Morand que nous parlons aujourd'hui, en particulier de ses textes sur New York, Venise et peut-être plus tard Bucarest. Michel Collomb, on vient d'entendre Georges Kless lisant un passage où Paul Morand décrit les gratte-ciels. Et pour en revenir d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure du portrait d'une ville comme du portrait d'un humain, Morand écrit ceci, il compare la vingtaine d'ascenseurs et tant de faisceaux de fils électriques à une chevelure, à des chevelures.
Cette description des gratte-ciels est superbe. Il faut rappeler que le gratte-ciel n'était quand même pas une réalité tout à fait nouvelle aux États-Unis. Mais pour les Français, c'était toujours quelque chose d'étonnant. Et il y avait des jugements plutôt négatifs jusqu'à présent. Et dans cette page, on voit que Morand a un point de vue très différent, un peu futuriste au sens du futurisme, avec une admiration pour la performance technique, avec tout un tas de détails qui montrent qu'il s'est penché véritablement sur la question avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Mais c'est ici que Morand est poète d'ailleurs, parce qu'il décrit New York sous toutes les coutures. C'est pour ça qu'il parle ville basse, ville moyenne, ville haute. On retrouve le goût pour le futur comme on retrouve le goût pour la nature au tout début du texte.
Oui, c'est ça. À propos de ces descriptions des gratte-ciel, j'ai envie de dire qu'elles ont... Bon, elles s'opposent à celles, elles ont tout un contexte littéraire aussi dans la littérature française. Il y avait des pages de Claudel très négatives sur l'architecture américaine. Et puis, le texte de Morand a réhabilité cette architecture et on voit que Céline, dans Voyage au bout de la nuit, lorsqu'il écrit...
La ville debout, pas baisante du tout.
Oui, oui.
Quand Bardamu arrive à New York.
Il reprend certains détails précis de la description que Morand a faite quelques années auparavant, puisque nous sommes en 29, le Voyage au bout de la nuit est de 32, je crois, et Duhamel également, d'ailleurs, va emprunter quelques traits à Paul Morand.
En même temps, il y a dans Le Voyage au bout de la nuit un goût pour la... Enfin, un goût. Ni un goût ni un penchant, d'ailleurs, mais en tout cas le souci d'en décrire la souillure, notamment les latrines publiques auxquelles nous conduisent des escaliers de marbre. On sent Céline jubilée, évidemment, de décrire le contraste entre le marbre et les latrines, alors que chez Morand, c'est comme s'il avait rendu les latrines elles-mêmes marmoréennes, si j'ose dire.
Tout à fait.
Il y a chez Morand plus une ambition peut-être de s'emparer de ce qu'il voit et de le styliser, de le poétiser davantage que Céline.
Morand est admiratif de ce luxe, y compris dans des détails aussi triviaux que les latrines ou les bains publics. Alors que pour Céline, c'est l'occasion justement de dénoncer cette société et ce mode de vie américain qui nous menace, enfin qui pensait-il menacer l'Europe. Le Morand de 1929 est complètement séduit par l'Amérique.
Alors il est séduit par l'Amérique et il la décrit, et ça c'est étonnant, Morand, écrivain cosmopolite. Il parle des Chinois de New York, il parle des Juifs évidemment, il parle de la petite Syrie, il parle également du quartier italien, hein. L'Italie, comment s'y tromper, voici des olives noires, du jambon cru, du parmesan, des fiasques, des cigares à paille et de ces pains toscans qui ont la même forme depuis les Romains. Il ne cesse de vanter le cosmopolitisme de New York. On se demande d'ailleurs s'il ne l'aime pas.
Il s'est longtemps affirmé lui-même comme un cosmopolite et même comme un cosmopolisson à quelques occasions. Il aime ce mélange, il aime l'évocation qu'il fait de ces différents quartiers de New York, le quartier italien, le quartier juif, le quartier slave et même le quartier allemand, la petite colonie française. C'est chaque fois avec curiosité et plaisir de pouvoir énumérer tous les détails, tous les traits caractéristiques de chacune de ces cultures qui arrivent à vivre simultanément. Il y a en même temps une esthétique là derrière, c'est l'esthétique du simultanéisme et de la mitrailleuse d'images.
Qu'est-ce que vous appelez simultanéisme, Michel Collomb ?
Eh bien, le fait, on est encore dans les années 20, sous l'influence de cette poésie moderniste que Sandra Ars, en particulier, Apollinaire, avait promue. Et je pense que, même s'il a abandonné la pratique de la poésie, cette pratique du lyrisme visuel que Sandra Ars, par exemple, avait promu, avait fait connaître, cette pratique, Morand la transpose dans l'écriture de ses nouvelles et aussi dans l'écriture de ses portraits de ville. Il y a ce côté très visuel, la volonté d'énumération, d'essayer d'être exhaustif, avec effectivement une grande sympathie pour la diversité des populations. Il n'y a aucun relent de racisme ou de hiérarchie raciale ou autre dans ces pages de cette époque.
Je serais curieux, Michel Collomb, de vous entendre sur le texte qu'on va entendre tout de suite, justement. Écoutez.
L'aquarium. C'est une des beautés de New York que la navigation silencieuse des longs esturgeons noirs, que l'envol monstrueux des grands turbots. Dans chaque réservoir, comme la maquette d'un ballet mythologique et sous-marin avec son décor d'herbe et de rochers, les bulles d'eau tirent des feux d'artifice vers la surface. poissons colorés des tropiques, truites des grands lacs glacés, pareils à des truites au bleu, poissons-chats rayés, déjà équatoriaux, poissons-porcs, phoques et requins. Le plus monstrueux, c'est le Junefish, ou poisson de juin. Je l'ai connu il y a 4 ans quand il se nommait Jewfish, le poisson juif. Chauve, gras, oriental, la bouche ouverte, agitant ses nageoires comme des bras très courts, il regardait Wall Street de son petit œil hagard, éveillé, dur comme marbre. Sa laideur était telle que les Juifs de New York exigèrent qu'on le débaptisât. Plus loin, un grand tableau synoptique m'émerveille. Il porte les noms de tous les poissons avec l'époque de leurs frais et leur nombre d'œufs. Sait-on que la langouste recherche le mâle en juillet et donne 10 000 œufs, que la truite dorée attend novembre pour faire l'amour par une température de 9 degrés.
Michel Colomb, vous diriez qu'il n'y a aucun racisme, aucun antisémitisme dans ce portrait d'un poisson juif, chauve, gras, oriental, bouche ouverte, agitant ses nageoires comme des bras très courts, qui regarde Wall Street de son petit œil hagard ?
Oui, de la part de Paul Morand, en 1929, il n'y a pas d'antisémitisme dans cette description qui peut nous choquer aujourd'hui et qui choquait peut-être effectivement une partie de la bourgeoisie juive new-yorkaise. Non, ce sont des représentations stéréotypées et on trouve, elles sont compensées quand même dans le texte de New York par, à diverses reprises, l'éloge de cette bourgeoisie juive qui a joué un rôle tellement important dans le développement, dans l'essor et la réussite de New York. Mais c'est vrai que ça, c'est un trait constant dans l'œuvre de Paul Morand. Il ne peut pas s'empêcher de prendre en considération le fait juif, avec parfois des notations qui sont désobligeantes, qui sont négatives.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Mais enfin, en l'occurrence, là, vous avez raison. Par exemple, il dit un immense folklore local. Dans le théâtre yiddish américain, comme dans le roman, oui. Ça, à l'infini, la scène du vieux père inassimilable et botté, avec ses rouflaquettes grasses s'échappant de son chapeau melon verdâtre, le Talmud sous son châle de prière, maudissant en russe ses enfants devenus américains qui ne le comprennent plus. Aujourd'hui, le juif nouveau, après son stage dans les bas quartiers, s'est élevé. Ses fils sont à l'université.
Oui. Oui, on pourrait dire la même chose à propos des Noirs américains. Il y a quelques pages qui sont consacrées à Harlem et où il a été sous la conduite d'un romancier américain qui s'appelle Van Vechten, qui est également un très bon photographe, dont on peut voir d'ailleurs des photographies dans l'exposition actuelle sur le jazz au Quai de Branly. Il y a des pages donc là qui peuvent paraître aussi un peu choquantes concernant les Noirs, mais il faut se remettre dans l'optique de Morand, qui est une optique de ce qu'on appelait un peu à l'époque la Zarlichkeit en Allemagne, une optique d'objectivité un peu journalistique, c'est-à-dire qu'on s'efforce d'être matter of fact, c'est-à-dire d'aller directement aux faits sans s'inquiéter des résonances idéologiques ou affectives de certains mots. C'est certainement que Morand, aujourd'hui, peut nous paraître politiquement très incorrect. Mais à l'époque, je pense que ce langage était d'abord plus admis. Et puis, encore une fois, je crois qu'il y a la volonté de ne pas s'encombrer de ce type de préoccupation et d'aller aux faits directement.
Lorsque le promeneur, écrit-il, si l'on peut parler d'un promeneur à New York, remonte sans faire attention à la 5e avenue et que tout à coup il lève la tête, il est surpris de voir, dans le cadre ordinaire des maisons basses à façade de pierre brune et à escalier extérieur, un spectacle complètement exotique. À quelques mètres, en quelques minutes, tous les New-Yorkais sont devenus noirs. Et ensuite, il continue, il dit, se trouve-t-il dans le métro et lit-il son journal ? Un écriteau attire son attention. 125e rue, il regarde à ses côtés, son wagon s'est changé en un wagon de nègres. C'est quand même, il n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Oui, mais je ne sais pas. Moi, je ne connais pas New York, alors je ne peux pas vous dire si ça a probablement beaucoup changé, mais peut-être que ça correspondait à une organisation spatiale et sociale de la ville à cette époque. Il y avait, en fait, c'est un peu toute Le récit de New York, c'est une sorte de longue pérégrination à travers la ville où on part de Battery, hein, au quai, où arrivent les immigrants, et on remonte à travers la ville basse, puis la ville moyenne, puis la ville haute. Et c'est vrai que quand on arrive à la ville haute, on arrive vers Harlem et on arrive vers des quartiers qui étaient encore à l'époque des quartiers vraiment populaires, où la population la plus pauvre était entassée.
Toute existence est une lettre postée anonymement. La mienne porte 3 cachets. Paris, Londres, Venise. Le sort m'y fixa, souvent à mon insu, mais certes pas à la légère. Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre, située elle aussi au milieu du vide, entre les eaux fétales et celles du Styx. Michel Collomb est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à l'art du voyage. C'est de Paul Morand que nous parlons aujourd'hui, et après New York, c'est à Venise qu'il faut aller, car on ne peut pas parler du voyage selon Morand sans évoquer Venise. Venise qu'il décrit avec son sang, Venise dont on peut dire peut-être, Michel Collomb, qu'elle le résume tout entier, ou en tout cas, Morand a eu l'ambition de se donner lui-même comme vénitien par excellence ou de morandiser Venise, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux sont intimement liés.
Il dit lui-même dans une des premières pages de Venise, parue donc en 1968, « Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre ». Donc, ça montre bien à quel point, pour lui, Venise est un lieu fondamental, où il a, comme il dit également, pris sa première leçon de planète. C'est un lieu d'initiation où il va constamment retourner pour faire le point sur sa propre vie.
C'est sens du pluriel. Hein. Venise, chez Morand, est écrit au pluriel. Hein. Il y a plusieurs Venises dans le temps et dans l'espace.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs Venises. Il y a la Venise qui correspond un peu à celle qui est évoquée dans le texte que vous avez lu, c'est-à-dire une Venise de la décadence, de la disparition. Et puis il y a une Venise de l'énergie, de l'impérialisme, de la volonté de conquête, de l'aventure, du voyage, Marco Polo, etc.
Tiens, on va entendre justement.
Je me suis trompé tout à l'heure en disant 1968, c'est 1971 bien sûr pour Venise. Hein.
Oh, les plus morandiens de nos auditeurs auront rectifié de même, Michel Collomb. On va rester à Venise, ouais. Et justement entendre cette Venise de la décadence, cette Venise qui le saigne, cette Venise dont il saigne, peut-être pourrait-on dire, écoutez.
Parfois, je cherche à me faire saigner en m'imaginant que Venise meurt avant moi, qu'elle s'engloutit, n'ayant finalement rien exprimé sur l'eau de sa figure, s'enfonçant non pas dans des abîmes, mais de quelques pieds sous la surface. Émergeraient ces cheminées coniques, ces miradors où les pêcheurs jetteraient leurs lignes, son campanile, refuge des derniers chats de Saint-Marc. Les vaporetti, penchés sous le poids des visiteurs, sonderaient la surface où se délait la fange du passé. Des touristes se montreraient du doigt d'or de quelques mosaïques, entre 5 ballons de water-polo flottants. Les dômes de Saint-Marc. La salute servirait de bouée au cargo. Au-dessus du grand canal, des bulles montraient, dégagées par les hommes grenouilles cherchant à tâtons les pigeons des Américaines dans les coffres d'un grand hôtel immergé. Quelle prophétie a jamais détourné un peuple du péché, dit Jérémie. Venise se noie. C'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de plus beau.
C'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de plus beau, la possibilité de Venise qui se noie, Michel Colomb. Vous avez dit qu'il y a deux Venises chez Morand, alors il y en a peut-être plus que ça, mais en tout cas, il y a une Venise énergique dont on va parler, mais il y a cette Venise de la décadence, cette Venise qui s'abîme dans l'eau et qui disparaît peut-être pour le meilleur du poète.
Il faut rappeler que Morand découvre Venise très jeune. Il y va dès 1904.
Il découvre Venise avant même d'y aller, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, à travers ses lectures, à travers
les images,
la peinture, les images, etc. Mais dès 1904, son père met en place les voyages annuels avec toute la famille. On allait passer l'été à Venise, son père peignait, et puis le jeune Morand, lui, arpentait les rues en toute liberté. Donc, 1904, on est encore assez près des représentations de la fin de siècle sur Venise. On est encore très près de Barès aussi. À un moment, dans Venise, je crois, Paul Morand dit qu'il se met un peu dans l'héritage de Barès et puis surtout de Stendhal. Hein.
Mais il y a peut-être un quadruple héritage. Barès, Stendhal, Chateaubriand et Proust.
Et Proust, alors Proust un peu plus tard, parce qu'en 1905, je pense.
Ah oui, non, en 1905, non, en effet, oui.
Il ne le connaît pas encore, mais oui, bien sûr, plus tard, l'association avec Proust se fera. Mais je crois que Morand a lutté contre la représentation proustienne de Venise, a voulu justement... Pour ça, je disais, il y a certainement le stéréotype de Venise, ville de la décadence, mais à ce stéréotype, il oppose toujours des images différentes de Venise, l'image d'une Venise de la galanterie, la Venise de Casanova, la Venise du XVIIIe siècle, et puis même, on peut dire, la Venise impériale, la Venise fascisante, la Venise qui veut régner sur la Méditerranée, qui le fascine dans les années 30, et qu'il évoque à nouveau à travers le portrait du comte Volpi, dans son journal inutile dans les années 70, 71, 72.
Alors il faut revenir sur les différentes Venises. Hein.
Oui,
Venise connue dès l'enfance, à travers l'aquarelle pendue au mur de sa chambre d'enfant. Donc une première Venise. Une première Venise imaginaire. Les autres, d'ailleurs, ne le sont pas moins. Puisqu'il y a cette découverte de Venise. Quand il dit découvrir Naples, c'était donner son vrai nom au soleil, vivre en Lombardie, y attendre l'entrée en Vénétie, c'était bien autre chose, c'était passer de l'amitié à l'amour. Et puis, l'arrivée même de Venise, qui tout de suite est prise comme un objet littéraire, un objet d'encre et de papier. Morand dit ceci, les canaux de Venise sont noirs comme l'encre. C'est l'encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de Barès, de Proust. Y tremper sa plume est plus qu'un devoir de français, un devoir tout court. C'est son impératif catégorique.
Absolument, absolument. On peut dire au passage d'ailleurs que dans ses récits de voyage ou dans ses portraits de ville, Morand utilise son expérience personnelle, mais il utilise également beaucoup de références livresques. Il se renseigne énormément, il y a beaucoup de citations et de renvois à divers écrivains. Puisque vous parliez de Venise et des différentes formes, des différentes Venises de Paul Morand, j'aimerais vous lire un petit passage qui est extrait d'une nouvelle peu connue qui se trouve dans « À la frégate » et qui s'appelle « Le barcarolle interallié ». Il imagine que pendant la guerre de 1914, donc au pire moment des combats sur le front en Italie du Nord, deux aviateurs, un Anglais et un Français basé à Venise, tente l'un et l'autre de faire la conquête d'une marquise vénitienne. Alors je vous lis quelques lignes.
Allez-y.
Comme elle était belle, une abeille italienne de race pure. Erol et moi, lui de l'escadrille britannique et moi de la base d'hydravion français du Lido, décidâmes de lui faire la cour et comme elle passait pour vertueuse, de constituer pour la conquérir un front unique. Fidèles à la tradition vénitienne, nous naviguions sur l'eau calme des combinaisons amoureuses. Grâce à notre service de renseignement, toutes les faveurs que la marquise accordait à l'un de nous, l'autre en était immédiatement avisé. Notre victime s'étonnait de ce miracle. La première fois que j'eus, sinon sa bouche, du moins le rouge de ses lèvres, Erol se trouvait en avion par la tempête à 2000 mètres au-dessus du Piave. Nous nous chauffions devant une grande cheminée peinte sur le mur et dont les flammes étaient aussi rendues en trompe-l'œil. À nos pieds, sur le dallage qui représentait un tapis, un radiateur électrique de fabrication allemande qui seul nous préservait de la mort éclairait en rose les jambes de la jeune femme et me faisait penser à ce passage de Jean-Jacques, jamais oublié depuis le lycée, qui commence par « Si j'avais des melons ambrés au cœur de l'hiver ». Notre amie, dont les yeux étaient de couleurs différentes pour chacune de ses robes, les avait ce jour-là en basalte, de cette pierre de bijoutier dite « pierre de touche ». Dès que j'en eus approché mes lèvres, elle se trouva mal avec un bon vieux chic, etc. Et pour finir, ils finissent par la conquérir tous les deux et en même temps.
Tous les deux et en même temps.
Voilà.
Et tout ça étant du bon vieux chic. C'est un texte absolument magnifique. Moi, je ne le connaissais pas.
Barcarolle interalliée.
D'où vient-il ? Quand l'a-t-il écrit ?
C'est écrit dans les années 30. Ça a été publié en 1934 dans le recueil À la frégate, qui n'est pas un des plus répandus, un des plus connus de Paul Morand, mais qui se trouve dans l'édition de la Pléiade.
Comment se fait-il que Morand ait éprouvé pour Venise cette dilection si particulière ? Pourquoi Venise plus qu'ailleurs ? Pourquoi est-ce à Venise qu'il réserve l'alliage d'un voyage dans l'espace, dans le temps, dans l'existence, dans sa destinée singulière ? Comment se fait-il que ce soit Venise qui, plus que toutes les autres villes de Morand, entrelace l'existence d'une ville, d'un individu, d'une géographie, d'une symbolique et d'un imaginaire littéraire et artistique ? Pourquoi ce privilège de Venise chez Morand ?
Je crois qu'il y a d'abord la richesse artistique de Venise.
Mais est-ce que, en fait, pour préciser ma question, ou ce qu'elle sous-entend, c'est est-ce que ça n'est pas chez Morand l'ambition tout simplement de s'inscrire, on en parlait tout à l'heure, dans une tradition qui le précède ? Est-ce que finalement il ne s'est pas servi de Venise parce que d'autres avant lui l'avaient conquise, que ce soit Chateaubriand ou Barrès hein ?
Oui, il y a probablement cette volonté, effectivement, d'être un écrivain vénitien. Il y a cette accumulation d'objets d'art, c'est une ville artistique et le jeune Morand est quand même très esthète. Hein, et les premiers textes que l'on connaît de lui avant 1914 sont écrits dans un style un peu décadentiste avec le modèle d'Oscar Wilde, etc. Donc il y a tout ce côté, cette fascination. Les correspondances qu'il a avec ses amis de l'époque sont à l'occasion de ses voyages en Italie, justement, se donnent un tas de détails sur les musées, sur les tableaux qu'il a pu voir. Et il a rêvé à un moment d'être historien de l'art. N'oublions pas qu'à Oxford, il travaille, il suit un séminaire sur les vases grecs, par exemple. Il y a tout cet arrière-fond un peu esthétisant du très jeune Morand. Et puis, il va y renoncer pour faire la carrière diplomatique. Mais il y a également quelque chose qui le fascine, qui l'a toujours fasciné dans cette partie de la Méditerranée. C'est on est là à la limite de l'Occident, en fait. Venise a toujours été la barrière contre les Slaves, contre le monde un peu barbare finalement venu du Nord.
Et alors là, c'est comme ça que lui le voyait.
Oui, je pense qu'il le voit parce que c'était aussi ce qu'on lui avait appris à sciences politiques. Hein. Il y avait ces cours qui l'avaient passionné sur la question des Balkans C'est un problème éternel et sur lequel il revient dans beaucoup de nouvelles. Hein, beaucoup de nouvelles se passent dans cette région. Je pense que Venise, cette ville qui avait hérité des trésors de Byzance, mais qui était également constamment menacée par la poussée slave qui va devenir la poussée communiste, hein, parce qu'à un moment, c'est contre Tito qu'il faut protéger Venise et l'Italie et cette partie de l'Adriatique. Je crois qu'il y a ça aussi. Donc il y a le côté, effectivement, esthète, la volonté de s'inscrire dans cette tradition littéraire dont vous parliez, et derrière de très grands noms, il faudrait toute une série d'émissions pour décrire les rapports entre Paul Morand et Stendhal, par exemple.
Oui, une série d'émissions sur les Venises en général.
Ouais, oui, on le crois que vous avez une émission sur Stendhal, peut-être, qui est prévue
dans
ce cycle. Il y a la volonté de s'inscrire dans une continuité littéraire d'auteurs qu'il aime particulièrement, Chateaubriand, Stendhal, Barrès.
Mais il y a, et c'est Barrès qui m'y fait penser, également ce tropisme occidental chez Paul Morand qui lui fait envisager Venise comme une sorte de rempart fragile contre ce que d'autres appellent les invasions barbares.
Tout à fait.
Est-ce la destinée ou est-ce ma faute ? J'arrive toujours quand on éteint. Dès le début, c'était terminé. J'ai vu la fin du 19e siècle, celle d'un enseignement secondaire qui durait depuis toujours, celle du service d'un an, la disparition de l'or, j'ai vu mourir plusieurs républiques et un État, et deux empires expirer. Sous mes yeux disparut un troupeau de renommées solides ou déraisonnables, et quelques gloires. Je suis voué à ce qui finit. Ce n'est pas seulement le fait d'un grand âge, mais d'une fatalité dont je sens le poids. Je suis veuf de l'Europe. S'il est un point, peut-être, Michel Collomb, où Morand, quoi qu'il écrive contre lui en un sens, ressemble à Proust profondément, c'est que dans la description qu'il propose de Venise, malgré tout, l'emporte une tonalité crépusculaire. L'emporte au sens où la description s'achève presque sur une tonalité crépusculaire, sur Venise comme une figure de la mort prochaine d'un individu, la mort d'un siècle, et également la mort annoncée ou la défaite annoncée d'un continent.
Alors, on peut lire Venise comme ça.
C'est en général comme ça qu'on le lit, hein,
voilà,
mais allez-y.
On peut le ressentir comme le bilan d'une vie, un bilan attristé devant toutes ces disparitions. Mais je pense qu'il y a une part un peu de posture là, dans ce texte qui vient d'être lu. Il ne faut pas oublier que Morand aussi a aimé découvrir l'Amérique, l'Asie a été d'une grande curiosité tout au cours de ses voyages. Et pour revenir à Venise, dans les dernières pages de Venise, lorsqu'il évoque par exemple les hippies qu'il rencontre à Venise et ensuite en Crète, il y a aussi l'évocation d'une Venise qu'il compare d'ailleurs à New York. Il dit « Venise au XVe siècle, une sorte de Manhattan, de cité prédatrice, excessive, hurlante de prospérité, avec un Rialto qui était le Brooklyn Bridge de l'époque, un grand canal, sorte de 5e avenue pour doges milliardaires. » Je pense qu'il y a, dans sa représentation de Venise aussi le souvenir de cette énergie. Il y a le culte à travers de la recherche, il y a la recherche à travers les lieux chez Morand de cette énergie qu'il aime et qui est pour
chez est-ce que vous souscrivez à l'expression consacrée qui voudrait que les Venises de Morand soient son tombeau littéraire ?
Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit son tombeau littéraire. Non, il a écrit d'autres choses après, d'abord, et puis... il y a son journal inutile, on pourrait considérer que c'est plutôt ça, le tombeau littéraire de Morand. Je ne pense pas. Il a effectivement voulu faire une sorte de résumé de son existence sous le signe de Venise, en utilisant finalement toutes les harmoniques que Venise par elle-même apportait à son existence dans ce décor. Mais je crois que la véritable leçon de sa vie, c'est cette curiosité qu'il manifeste jusqu'au bout quand il organise des voyages avec Gabriel Jardin ou avec d'autres jeunes gens rencontrés qu'il emmène en Écosse dans les dernières années de sa vie. Il part comme ça avec des jeunes et c'est la volonté de découvrir toujours des lieux nouveaux et dans des cadres et dans des environnements stimulants.
Si je vous lis ce texte de Proust, Michel Collomb, extrait d'Albertine disparue, j'ai le sentiment, en travaillant sur cette émission, on a tous eu l'impression que finalement les Venises plurielles de Morand étaient tout entières, en un sens, tirées des femmes plurielles de Proust. Voici le texte. « La femme, dont nous avons le visage devant nous plus constamment que la lumière elle-même, puisque même les yeux fermés, nous ne cessons pas un instant de chérir ses beaux yeux, son beau nez, d'arranger tous les moyens pour les revoir, cette femme unique, nous savons bien que c'eût été une autre qui l'eût été pour nous si nous avions été dans une autre ville que celle où nous l'avons rencontrée, si nous nous étions promenés dans d'autres quartiers, si nous avions fréquenté un autre salon. Unique, croyons-nous ? Elle est innombrable, et pourtant elle est compacte, indestructible devant nos yeux qui l'aiment, irremplaçable pendant très longtemps par une autre. Est-ce que Morand n'est pas, comme Proust, tout simplement la volonté de préserver ce qui peut l'être, c'est-à-dire préserver à la fois la diffraction, la multiplicité de quelque chose, et en même temps l'unicité qui fait qu'on lui donne un nom, tout simplement ? Michel Collomb.
C'est vrai que Venise semble l'illustration de cette conjonction de l'innombrable, du multiple, dans son écriture même, très éclatée, et puis de l'unité, l'unité d'un lieu, l'unité d'une histoire, l'unité d'une vie qui est la sienne. Mais en même temps, le Morand que je connais et que j'aime et par lequel j'aime le voir et l'interpréter, c'est un Morand très éclaté, très ouvert à l'aventure et à l'hétérogène. C'est-à-dire qui, à la limite, sacrifierait cette unicité qui passionne Proust.
Il sacrifierait cette unicité et en même temps, il rassemble tous ces textes sur Venise, ces textes écrits tout au long de la vie.
Oui.
Dans son recueil sur Venise, il faut bien le rappeler, il y a des textes qui ont presque 50 ans d'écart.
Exactement, oui, ça s'étend entre 1909, je crois, et 1970-71. Oui.
Un grand merci Michel Collomb. On arrive déjà au terme de cette émission avec un regret, c'est de n'avoir pas parlé de Bucarest et dans un instant je vous dirai pourquoi. Je rappelle d'abord Michel Collomb que vous enseignez la littérature comparée à l'université Paul Valéry de Montpellier et qu'évidemment, ça on l'avait compris, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Paul Morand à qui vous avez notamment consacré un excellent Paul Morand, petit certificat de vie, paru chez Hermann en 2007. Lisez, chers auditeurs, Les Voyages de Paul Morand, c'est une absolue merveille. Vous pouvez trouver Les Voyages en bouquin, c'est très pratique. Le texte également sur Venise, qui de mémoire se trouve chez Gallimard, je crois, dans la collection L'Imaginaire. Lisez également, si le cœur vous en dit, Au seul souci de voyager, une collection de textes choisis et présentés par Michel Bulteau, des textes de Paul Morand, là encore des extraits de Voyages, parus dans la quinzaine littéraire, dans la collection Voyager avec.